Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, une manifestation et deux rassemblements à Hong Kong où les détracteurs de l'exécutif ne désarment pas. Nous serons en ligne dans un instant avec Florence de Changy. À la faveur de l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Montpellier, analyse d'une étude publiée dans la revue The Lancet qui conclut à une explosion des blessures oculaires par des lanceurs de balles de défense, précision de Delphine Evenou. Et puis dans la Bulle Écho, Marie Viennot nous entretient ce samedi de la passation de pouvoir à la tête de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde a succédé à Mario Draghi. Du parc Victoria au quartier des affaires, itinéraire le plus pratiqué par les opposants à l'exécutif hongkongais depuis le début du soulèvement. Les autorités ont d'ailleurs interdit la manifestation en cours. Elle rassemble des dizaines de milliers de personnes qui entendent lancer un appel d'urgence pour l'autonomie. Bonjour Florence de Changy.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes en ligne de Hong Kong. Florence, quelle forme prennent les mobilisations du jour ?
Une forme tout à fait inattendue parce que d'une part il y avait la manifestation que vous mentionniez à cause de B qui n'avait pas été autorisée avec un certain nombre de candidats aux futures élections de district prévues le 24 novembre et qui avait profité cette...
Nous avons des difficultés. Florence, je propose que nous nous trouvions un peu plus tard car la ligne avec Hong Kong est très difficile. Nous reviendrons donc à Hong Kong. On me dit que la liaison est rétablie. M'entendez-vous, Florence de Changy ?
Moi, je vous entends très bien.
Bien. Alors, on peut reprendre avec vous. Vous nous disiez, et vous n'oubliez pas de nous préciser que cette manifestation, dans son itinéraire le plus classique, avait été interdite.
Oui, alors il y avait une partie qui était interdite, mais que les futurs candidats aux élections de district de la fin du mois avaient quand même décidé de maintenir. Il y avait d'autre part deux manifestations très pacifiques autorisées à Central, une où il s'agissait de construire des petits origamis d'oiseaux symboliques et une autre avec un thème, effectivement, un des thèmes récurrents, démocratie, etc. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que avant même que ces manifestations puissent avoir lieu, la police a sévi, comme toujours de manière assez brutale. Il se trouve que là où je me trouve, il y a eu en fait une arrestation de masse. Quelques centaines de manifestants ont été bloqués dans un terrain de sport. Et actuellement, ils sont en train de faire sortir un par un et d'éliminer d'emmener en bus ces manifestants. Et du coup, il y a tout un attroupement qui essaye de documenter et de regarder tant bien que mal ce qui se passe derrière ce cordon de policiers pour savoir qui sont les manifestants arrêtés, etc. Donc la situation est chaotique. Il y a un certain nombre des grandes avenues de Hong Kong, enfin de l'île de Hong Kong, qui sont fermées par des barrages. Il y a des grands feux de poubelle par moments, relativement dangereux d'ailleurs, et que les pompiers ne gèrent pas forcément. Il y a des hélicoptères qui survolent et qui sans doute aident la tactique des policiers. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les manifestants vont d'un côté, fuient, se cachent. Et il semblerait que pour la première fois, la police ait recours à des observateurs dans le ciel en hélicoptère qui leur indiquent ce qui se passe. Et c'est sans doute pour ça qu'ils ont réussi à coincer, entre guillemets, entre deux grandes artères, plusieurs centaines de manifestants sur ce terrain de sport.
Merci à vous, merci de toutes vos précisions. Florence de Changy en direct de Hong Kong. En Algérie, le régime doit publier dans la journée la liste des candidats à l'élection présidentielle qu'il a programmée au 12 décembre prochain, au mépris du Irak, littéralement le mouvement, qui depuis 37 semaines appelle au renouvellement des pratiques politiques. Les places militaires maliennes esselées sont de plus en plus ciblées par des effectifs djihadistes qui se jouent des patrouilles dans l'immensité du nord du pays, comme aux abords des frontières burkinabées et nigériennes. 150 km séparent Indeliman du Niger. Indeliman où furent dénombrés 54 morts, dont un civil. Les assaillants ont usé de canons avant d'approcher le site militaire sur des deux roues. Situation sous contrôle selon Bamako. Bonjour Kawaru Mangasa.
Bonjour.
Avez-vous des précisions, Kawaru, justement sur ce bilan, ce dernier bilan publié dans la soirée et donc rendu public par le ministre de la Communication?
Alors justement, j'ai rencontré tout à l'heure le ministre de la communication qui confirmait ce bilan. Il évoque aussi que les assaillants disposaient d'armements très lourds, d'obus, de kalachnikovs, et également que le gouvernement n'excluait pas l'utilisation de véhicules kamikazes. Il a également précisé qu'une enquête était en cours pour identifier tous les éléments de cette attaque, d'autant plus que cette attaque n'a toujours pas été revendiquée au moment où je vous parle. Et cette attaque, elle reflète pas mal de choses. C'est-à-dire que en un mois, il y a près de 100 soldats maliens qui sont tombés sur le front d'une guerre contre le terrorisme. Hier, c'est un nouveau palier qui a été franchi. Vous avez évoqué dans vos titres 54 morts. Ça faisait 3 ans, plus de 3 ans, et la visite de l'ancien Premier ministre à Kidal, qu'on n'avait pas vu autant de soldats maliens tomber et mourir sur le front. Et tout ça décrit toute une situation dans le sens où dans la partie nord et le centre de son territoire qui fait 1,24 million de kilomètres carrés, l'armée malienne, elle a de très très grandes difficultés. Elle est régulièrement attaquée dans des zones qui sont très reculées, où ses unités sont cantonnées. Elle manque souvent de matériel ou d'accès à l'eau et même à l'électricité dans ces zones aux confins des frontières nigériennes et burkinabèses. Et dans ces zones, vous l'avez également dit en titre, évolue une multitude de groupes extrémistes violents, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Alors, beaucoup de questions se posent ici au Mali, parce que les violences djihadistes, elles persistent, elles se sont propagées.
Oui, la ligne vient malheureusement d'être interrompue avec Bamako. Merci à vous, Kaourou Mangassa, en tous les cas, de toutes ces précisions et cette contextualisation. C'était le 2 novembre 2013. Nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient assassinés lors d'une mission à Kidal, au Mali. Les familles des deux journalistes dénoncent le silence des autorités françaises qu'elles accusent de mensonges et d'inhumanité. En juillet dernier, une enquête de Radio France Internationale a en effet mis en cause la version officielle d'une prise d'otage ratée par un groupe djihadiste en révélant que des forces spéciales françaises pourchassaient les ravisseurs lors des faits. Il est 12h37, près d'un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. C'était le 17 novembre 2018. Une assemblée des assemblées réunie depuis hier à Montpellier réfléchit aux enseignements de ces mois de mobilisation. Parmi les constats de la violence et de la violence, il y en eut du côté des manifestants se réclamant des Gilets jaunes sans en faire partie et de la part des forces de police. Une étude dresse un premier bilan des blessures oculaires, blessures suspectées d'avoir été causées par les lanceurs de balles de défense. Étude menée par des médecins et chercheurs français auprès des hôpitaux français. Leurs résultats ont été publiés hier dans la revue médicale britannique The Lancet. Delphine Efnou.
C'est une enquête rétrospective, un questionnaire envoyé au service ophtalmologie des CHU de France où sont traités les patients gravement blessés et qui porte sur 3 ans, février 2016, début de la contestation contre la loi travail, à août 2019. Traumatisme de la rétine, fracture du visage, dommage au cerveau, les chercheurs ont identifié 43 cas de blessures oculaires causées par des armes non létales, dont la moitié à Paris. 38 hommes, 5 femmes, âge moyen 26 ans. Au-delà du portrait robot, ce que l'on apprend surtout, c'est que ce type de blessure explose avec le début du mouvement des Gilets jaunes. 2 cas recensés en 2016, un seul en 2017, mais 25 l'an dernier et 15 cette année. Depuis le premier samedi de manifestation des Gilets jaunes, 2500 manifestants et 1800 membres des forces de l'ordre ont été blessés, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Quand et où réapparaître en tant que rédaction? Autant de questionnements auxquels se sont livrés les membres de Charlie Hebdo qui ont choisi de participer au Forum mondial de la démocratie ce week-end à Strasbourg. Il s'agit de la première intervention collective de Charlie Hebdo depuis l'attentat de janvier 2015. Coco, dessinatrice de l'hebdomadaire, fait mention, vous allez l'entendre, du dernier hors-série du journal, un hors-série sur les caricatures, Coco, lors d'un entretien donné à Matteo Maestracci.
Depuis l'attentat, on avait des restrictions sécuritaires importantes qu'on a toujours à la rédaction, mais disons que c'est important pour nous, pour l'équipe aussi, de se dire voilà, on peut refaire à nouveau de ce genre de choses, d'aller à la rencontre du public et simplement de parler de notre travail.
Ce hors-série fait un état des lieux du dessin de presse Oui. Qui va mal.
Qui va mal, qui est, on va dire, qui est plutôt menacé. Bon, vous avez tous entendu parler du New York Times qui a pris la décision d'arrêter le dessin de presse dans ses colonnes. C'est vrai que le dessin de presse, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, c'est un des piliers de nos démocraties. On fait un métier qui est d'informer, de faire rire, de déranger. C'est très important. Donc, on dresse un état des lieux et puis aussi on donne un peu les moyens de comprendre la caricature à travers des thématiques fortes. Voilà, qu'est-ce que c'est de caricaturer les politiques, de caricaturer les religions, les femmes, les minorités, comment ça se passe ce travail et puis comment ça s'inscrit aujourd'hui dans une ère où on est dans un monde où, par exemple, tout le monde se prend en photo sur Instagram, sur Snapchat et passe par des filtres déformants de son image. Et sitôt que les gens sont confrontés à une caricature d'eux, du coup, ça leur plaît pas. Dans mon travail, j'essaie de pas trop penser à ça. Je ne pense pas à celui qui va recevoir. Je dessine sur toute personne. Personne n'est intouchable au dessin de presse ou à la caricature. Ce serait bête de se dire, bah tiens, lui, il va ressentir mal. Le truc, dans ces cas-là, on ne ferait absolument plus rien. Il faut que le rire, c'est quelque chose de social. Il faut que les gens puissent avoir un peu de recul sur eux et ben c'est dit de manière très très juste dans le hors-série caricature. Le rire, c'est une affaire de confiance et dès lors qu'on a confiance dans une relation, et ben on peut rire de soi et le rire de soi, ça manque maintenant.
Coco, dessinatrice de l'hebdomadaire Charlie Hebdo.
La bulle économique, Marie Viennot.
Après 8 années à la tête de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi a passé les rênes à Christine Lagarde cette semaine lors d'une cérémonie qui, Marie, donne le ton de la future présidence.
Dans la tour de verre de la Banque Centrale Européenne à Francfort, c'est le temps de faire ses adieux. Dans l'Assemblée, 400 invités, dont le président français, la chancelière allemande, le président italien et bien sûr celle qui va remplacer Mario Draghi à la présidence de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde.
Signor Presidente Draghi,
ce que vous avez fait à la tête de la BCE est si connu que je n'ai pas besoin de répéter, commence Christine Lagarde. Et d'ailleurs, j'ai promis de ne pas prononcer les fameux trois mots.
The famous three words.
Les fameux trois mots, les voici.
Whatever it takes.
Whatever it takes, tout ce qu'il faut, ces trois mots prononcés par Mario Draghi en 2012 n'ont pas sauvé la zone euro de tous ses travers, mais à cette époque-là, ils ont clairement empêché qu'elle n'explose. Pour cela, Mario Draghi mérite un peu son titre de Super Mario. Mais si la zone euro fut sauvée des spéculateurs à cette époque, dans quel état la laisse-t-il aujourd'hui? Si on prend les grands indicateurs macroéconomiques, la croissance n'est pas très forte, mais ce ralentissement est mondial. Côté inflation, en revanche, il y a un problème. La cible de la BCE, c'est 2% et on est plutôt autour de 1%. Cependant, ces chiffres ne disent rien du plus grand défi qui attend Christine Lagarde, défi qui tient là en un mot, divergence. Car les économies de la zone euro sont en train de diverger alors que le projet de monnaie commune devait au contraire les faire converger. Au nord, les excédents, au sud, les déficits. Dans les pays dits centraux, des flux financiers excédentaires, dans les pays dits périphériques, au contraire, des capitaux qui partent. Le plein emploi aux Pays-Bas, mais un tiers des jeunes au chômage en Grèce. La Grèce, oui, est finalement restée dans la zone euro sous Mario Draghi. Mais le pouvoir d'achat de ses habitants s'est effondré, alors qu'en Allemagne, il n'a fait qu'augmenter. L'écart s'est donc creusé. Disons enfin un mot des banques. En Grèce, 40% des prêts octroyés par les banques grecques sont toujours à risque, 18% pour Chypre, un peu moins de 10% pour l'Italie, alors qu'on est à 2% en Allemagne. Le tableau, en détail, le voilà. Or, la Banque Centrale Européenne n'ajuste pas ses outils pays par pays. Oui, on a innové ces 10 dernières années, mais ce sont les mêmes outils pour tous. Imaginez un médecin qui a 19 patients mais ne peut fournir qu'une ordonnance. Pas facile d'éviter les effets secondaires indésirables ici ou là. Surtout quand ces patients, c'est-à-dire les États de la zone euro, ne font pas grand-chose pour se soigner collectivement et attendent tout ou presque du médecin. En sauvant la zone euro, avec ces trois fameux mots, Mario Draghi a donné l'illusion de la toute-puissance de la Banque Centrale Européenne. Or, c'est faux, elle ne peut pas tout. Et lui-même n'a cessé de le dire dans ses dernières conférences de presse. Si la zone euro diverge, c'est que les 19 États doivent aussi agir. Mettre plus de moyens budgétaires en commun, finir l'union bancaire, en mutualisant leur système de garantie des dépôts, notamment.
Because we both love music.
Christine Lagarde jouera-t-elle la même partition ? On peut s'y attendre. Elle a déjà regretté publiquement que les pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas n'investissent pas davantage puisqu'ils sont en excédent budgétaire.
Ring the bell, ring the bell.
Sonnez les cloches qui peuvent encore sonner. Oubliez votre offre parfaite. Il y a une fissure dans tout. C'est comme ça que la lumière entre.
Thank you very much, Mario.
C'est avec ces paroles de Leonard Cohen que Christine Lagarde finit son discours. Façon de dire que la BCE ne contentera jamais tout le monde. Mais de quelle fissure et de quelle lumière parle-t-elle ? Là, c'est plus énigmatique, mais comme vous l'entendez, toute la salle a quand même applaudi.
Merci à vous, Marie Viennot. Alerte au vent violent dans la Charente, les Charentes-Maritimes, la Vendée, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vienne. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Jean-Guilain Meige.